cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 100% locale, Cultivons notre jardin. Cette émission vous est présentée par Nat et Jackie et nous vous parlerons entre autres, mais surtout, de jardinage au naturel. Alors, comment vas-tu Nat ?
Ça va pas mal, ça va un petit peu mieux avec les températures qui remontent là. C'est bien ?
Et oui, c'est plutôt bien.
C'est mieux.
On a eu de l'eau, mais maintenant ça va pousser et puis quand même cette hausse de la température nous ravit tous.
Et toi, Jackie, tu vas bien ?
Eh bien, écoute, ça va pas trop mal. Moi, dès que ça pousse au jardin, j'ai quand même tendance à être toujours content, moi, du temps qu'il fait. Donc là, ouais, ça pousse. Donc ça va bien. On va, autour de cette 17e émission, continuer à parler jardin.
Hein ? Et oui.
Par la pratique. D'abord, on va commencer toujours la pratique et on va retrouver ce qu'on a à faire au jardin. Et dans ce même cadre de la pratique, j'ai envie de te parler aujourd'hui du sol de ton jardin. Mm-hmm. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais il me semble nécessaire de bien comprendre la vie du sol pour mieux jardiner. Et de ton côté, Nat, tu as envie, il me semble, de rebondir sur un sujet d'actualité.
Oui, en fait, moi, j'étais un petit peu interpellée par les gens autour de moi sur à propos de tous les chiffres qu'on entend en ce moment. On entend parler d'extinction de masse, de disparition des insectes, des oiseaux. Et voilà, je voulais faire un petit peu un point là-dessus et vous proposer un petit décryptage de ces informations.
Eh bien alors, on va écouter avec plaisir.
Cultivons notre jardin.
Bon, alors Jacques, tu nous racontais un petit peu qu'est-ce que nous pouvons faire en ce moment au jardin ?
Eh bien, on va commencer par un traditionnel coup d'œil sur le calendrier lunaire pour la quinzaine qui vient au potager. Alors, du 8 au 10 juin, nous sommes en légumes-fruits. Il n'est pas trop tard pour repiquer quelques cucurbitacées.
Oh, bravo, tu l'as bien dit.
Comme les courgettes ou les cornichons, par exemple. Du 15 au 17 juin, tu peux repiquer des salades, car c'est favorable pour les légumes-feuilles.
Et qui mange de la salade n'est jamais malade.
En plus. Les 18 et 19, c'est bon pour les légumes-fruits. Et les 24 et 25, encore bon pour les légumes-racines. Mmh. C'est toujours intéressant de prolonger un petit peu en saison comme ça, parce qu'il faut penser que la Lozère est un département où il y a des régions où il fait encore froid longtemps. Hein. On est en zone montagne, donc on le fait pour tous les auditeurs.
Voilà. Bon, Jackie, c'est bien. Donc maintenant, on sait un petit peu ce qu'on peut faire avec la lune ou grâce à la lune en ce moment. Et tu avais prévu de nous parler du sol. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sol de ton jardin, Jackie ?
Alors, c'est grâce à la connaissance des qualités et des défauts du sol de ton jardin que tu vas pouvoir mettre en œuvre les techniques pour en tirer le meilleur profit, tout en respectant la nature dont il est un des maillons.
État des lieux.
Alors, le sol comprend 4 éléments principaux. On va essayer d'être simple et clair. Mmh. Il y a de l'air, il y a de l'eau, des constituants minéraux et de la matière organique. Sauf s'il s'agit d'une terre rapportée, le sol de ton jardin est issu de ce qu'on appelle la roche-mère qui s'est désagrégée au fil du temps.
Des cailloux.
Exactement. Si on imagine une coupe en profil du sol, on distingue 3 couches superposées. Ce qu'on appelle la terre arable, dont l'épaisseur varie de 10 à 60 cm, parfois plus, l'essentiel de la vie du sol se situe dans cette couche où les racines puisent leur nourriture.
Donc, première couche, la terre arable.
Le sous-sol qui est en dessous et qui contient moins de racines, mm-hmm. mais qui est quand même de la roche décomposée.
Hein.
Et ensuite, en dessous, on va voir ce qu'on appelle la roche-mère, dont je viens de parler un petit peu plus tôt.
Très bien.
Au début de la création de la Terre, eh ben, tout était que de la roche. Hein. Il a fallu que ça se décompose pour faire du sol.
Que du caillou.
Je crois devoir préciser quand même que suivant la nature de la roche-mère, ton sol sera acide, si c'est du granit, ou alcalin, si la roche est calcaire. Il est important de connaître le pH. Alors, le pH, c'est ce qu'on appelle le potentiel hydrogène. du sol pour planter les variétés de plantes adaptées à ce dernier. La neutralité se situe à 7. Un pH inférieur à 7 signifie que le sol est acide et un pH supérieur à 7 signifie que c'est un sol basique, donc calcaire.
C'est comme pour l'eau.
C'est comme pour l'eau, exactement. Hein. La plupart des plantes poussent mieux quand le pH est compris entre 6,3 et 6,8. Il est possible de changer le pH, mais c'est un travail de longue haleine. Pour augmenter le pH, il faut apporter un amendement calcaire. Pour diminuer le pH, il faut ajouter du compost ou du fumier décomposé. Le mieux étant de s'adapter quand même à la nature de ton sol.
Bah, c'est sûr que c'est le mieux, mais pour quelqu'un qui connaît rien, là, un peu comme moi, comment je sais, moi, quel est le pH de mon sol? Comment je peux savoir?
Alors, on peut savoir le pH de son sol simplement en faisant une étude de sol, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prélever et puis mettre un acide. On prélève de la terre, on met dans l'eau. Et comme pour une eau d'aquarium, par exemple, avec un précipitateur, on va mettre dedans un acide. Et puis, selon la couleur, tu auras le pH de ta terre.
Mais je crois qu'il existe des petites bandelettes aussi qui me semblent assez pratiques.
Que tu vas plonger là-dedans, dans ce milieu. Mais en fait, sur la bandelette, il y a déjà un acide qui va provoquer la réaction.
Oui. Voilà. Bon, d'accord. Alors, j'en reviens à la terre arable, puisque tu n'as pas voulu nous en parler, mais tu as préféré nous parler de la roche-mère. Alors, la terre de mon jardin, la première, celle que je vois, de quoi est-elle composée?
Alors, elle est constituée de particules minérales. Hein. C'est de l'argile, du limon, du sable, dans des proportions différentes selon le type de sol. C'est ce qu'on appelle la texture du sol. Hein. Ça va être son pourcentage d'argile, de limon et de sable. Une terre franche est une terre qui contient ces différentes particules dans des proportions relativement équilibrées. Il existe principalement trois types de sols. Un sol qu'on peut appeler argileux, un sol limoneux ou un sol sableux, en fonction de la prédominance d'un de ces trois éléments. Il existe principalement trois types de sols, un sol argileux, un sol limoneux ou un sol sableux, en fonction de la prédominance de ces éléments. Un échantillon de sol doit contenir de 1 à 5 % de matière organique. Cette matière organique, c'est ce qu'on appelle l'humus. Il est pratiquement impossible de modifier la texture de son sol. Par contre, tu peux agir sur sa structure.
Eh ben voilà, là, c'est le moment où tu vas nous expliquer la différence entre la texture du sol et sa structure.
Ben, c'est le mode d'assemblage des particules du sol entre elles. La meilleure, c'est la structure grumeleuse, celle qu'il faut rechercher et entretenir. Contrairement à la texture, qui ne change pas, la structure est un état qui évolue avec le temps. La structure grumeleuse est obtenue par l'activité biologique qui règne dans le sol. C'est un assemblage de grumeaux, appelés macro-agrégats, qui laissent entre eux le passage de l'eau et de l'air, dont je parlais tout à l'heure. D'accord. L'humus est généralement associé aux minéraux argileux et forme ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. L'argile et de l'humus. Voilà, maintenant, normalement, tu as compris.
Non, explique-nous.
Si on retrouve ce mot encore, parce que quand on veut parler sol, on a obligatoirement, on va tomber sur ces mots-là. Hein. Oh. Donc, savoir que effectivement, l'humus est toujours associé à la structure de mon sol comme ça. L'humus, je vais en rapporter justement quand je vais mettre mon compost une fois qu'il est fait, c'est de l'humus. Et l'humus, c'est ce qui va, c'est en fait l'alimentation des plantes.
C'est le végétal décomposé.
Voilà, et qui va alimenter directement mes plantes.
Oh, j'ai tout compris.
Alors, c'est difficile hein, d'expliquer autrement qu'en employant les termes justes. Il ne faut pas prendre ça comme un étalement de science. Eh bien, maintenant, Nat, à ton tour de nous expliquer ce que tu voulais nous raconter avec le sujet des extinctions de masse au niveau animal, des extinctions des insectes, des oiseaux, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et quand les insectes et les oiseaux disparaissent, il y a toute une chaîne aussi qui est impactée. Alors, je te laisse nous raconter ça.
Oui, merci, Jackie. Alors, effectivement, parce que quand on parle d'extinction de masse, les dinosaures, ça y est, ça, c'est fait. Hein, t'es d'accord?
Oui.
T'en as pas croisé récemment?
Non, même pas en venant.
Bon, donc c'est, on est bien d'accord, des dinosaures, il n'y en a plus. Non, en fait, je trouvais ça curieux ces derniers temps de voir autant de chiffres aussi précis en termes d'extinction de la biodiversité, tout simplement parce qu'effectivement, l'évolution du climat, les scientifiques arrivent et les perturbations, hein, les scientifiques arrivent à peu près à les calculer. En revanche, en termes de biodiversité animale, c'est un petit peu plus complexe, bien évidemment. Et en fait, pourquoi tous ces chiffres depuis quelques semaines? Eh bien, tout simplement, enfin, depuis début mai, hein, très précisément, tout simplement parce que début mai a eu lieu un sommet sur la biodiversité qui a conclu à un rapport. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des experts de la biodiversité et des représentants politiques du monde entier se sont réunis à Paris sous l'égide de l'ONU pour valider la première évaluation mondiale de l'état de la biodiversité. D'où le foisonnement de chiffres derrière. Alors voilà, sur les 8 millions d'espèces estimées, dont 5,5 millions d'espèces d'insectes, sur la planète, un demi-million à 1 million d'espèces devraient être menacées d'extinction. D'abord, une extinction de masse, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se définit ? Une extinction massive, elle se définit sur trois critères. En premier, elle a une durée brève, quelques millions d'années à l'échelle des temps géologiques. En deuxième, elle doit être à l'échelle mondiale. Et le troisième critère pour définir une extinction de masse, c'est qu'elle représente une disparition de plus de 75% des espèces animales et végétales. D'accord ?
Et quand même.
Quand même. Donc jusqu'ici, ces extinctions ont eu pour origine trois causes principales. Juste pour replacer un petit peu les choses, depuis le début des années 2010, on va dire, on entend parler, est-ce que nous sommes face à la sixième extinction de masse, oui ou non ? Parce qu'effectivement, nous en avons déjà traversé cinq extinctions de masse. Sauf que jusqu'ici, ces extinctions ont eu pour origine trois causes principales, souvent liées d'ailleurs. Une cause biologique, par exemple un appauvrissement génétique, ou bien une cause terrestre, comme le volcanisme ou des changements climatiques, ou encore une cause extraterrestre, non pas les petits hommes verts, mais simplement un impact de météorites ou des rayonnements cosmiques. Voilà. Et ce qui est différent sur cette sixième extinction de masse, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'influence de l'être humain qui la provoque, tout simplement.
Et oui, donc, s'est exprimé une alerte mondiale. Hein. Ce n'est pas seulement au niveau de la France, mais est-ce que chaque pays n'aurait pas intérêt aussi à balayer devant sa porte ? Moi, je trouve que ce serait intéressant d'en discuter aussi.
Chaque pays, chaque individu ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, en fait, donc ce fameux rapport là dont je vous parlais un petit peu en introduction, il a été émis par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est un rapport de 1800 pages quand même, Jackie. Autant dire que je ne l'ai pas lu. Je me suis contentée de regarder quelles pouvaient en être les analyses faites. Et donc, ce rapport, il a été rédigé par 150 experts et expertes de 50 pays différents. Donc, l'intérêt là, c'est qu'on a vraiment un point de vue global sur la biodiversité mondiale, en fait. Hein.
Et oui, et qu'on ne pourra pas qualifier de politique, puisqu'en fait, ce sont vraiment des chercheurs.
Voilà, il s'agit effectivement d'experts. On est bien d'accord. Alors, ce rapport, malheureusement, il est alarmant. Alors, effectivement, c'est officiel. Nous assistons, puisqu'on se demandait depuis quelques années, mais aujourd'hui, c'est officiel. Nous assistons à la disparition accélérée des espèces qu'on appelle sixième extinction de masse. Donc, en bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, par exemple, 1 million d'espèces, soit 1 sur 8, est en danger d'extinction à court terme. La disparition de la biodiversité est 1000 fois supérieure au taux naturel d'extinction des animaux. Plus globalement, ce sont notamment 40% des amphibiens, 33% des coraux, 25% des mammifères et 13% des oiseaux que nous risquons de voir disparaître d'ici quelques décennies. Alors, pour 30% des impacts, il s'agit principalement du changement d'usage des milieux naturels. Donc, déforestation pour le palmier à huile, élevage intensif, extraction minière. Et ensuite, pour 23%, le problème viendrait de la surexploitation des ressources, notamment la pêche et la chasse. Voilà.
C'est vraiment énorme. Alors, quand on se dit que c'est l'homme qui fait tout ça, il y a quand même peut-être il est peut-être temps d'essayer d'y faire quelque chose.
Oui, effectivement, notamment en ce qui concerne le changement climatique, les pollutions et le plastique, dont le volume a été multiplié par 10 dans les océans depuis 1980 quand même, c'est pas inintéressant, ils interviennent pour 14% dans cette extinction à grande échelle. Voilà. Il faut savoir donc que nos experts de ce fameux rapport sur la biodiversité mondiale, ils mettent principalement en cause un modèle de production et de consommation insoutenable. Par exemple, le commerce international a été multiplié par 10.
Rien que ça.
Rien que ça. En 50 ans, la production agricole mondiale a triplé. Mais la dégradation des sols a réduit de 23% la productivité de l'ensemble de la surface terrestre mondiale. Donc, d'un côté, on triple la productivité, mais d'un autre côté, on bombarde les sols, en fait. On est un petit peu intéressant, l'être humain. Et les insectes aussi, on en entend pas mal parler en ce moment. Les insectes disparaissent, notamment du fait de l'usage massif des pesticides, alors que 75% des cultures ont besoin d'être pollinisées par leurs soins.
Et oui, est-ce qu'on ne va pas être obligé, comme en Chine, d'employer des gens pour faire la pollinisation à la place des insectes ?
Ouais, on peut se demander. L'autre fois, j'ai vu un film où, en fait, ils avaient construit des drones. Il y avait des petits drones pour remplacer les insectes. Terrible, ça fait peur. Donc voilà, l'agriculture productiviste, on a dit, c'est pas bon pour la planète et pour les insectes en particulier. Et ben, il faut savoir que les financiers, pas les gâteaux, hein. Je parle bien des gens du secteur financier, ajoutent leur petite touche personnelle. 68% des capitaux étrangers allant au secteur du soja et de la viande bovine amazonienne transitent par des paradis fiscaux. C'est étonnant ça, Jackie, hein ?
Oui, étonnant, je ne pense pas vraiment.
Pas vraiment étonné, Jackie. Non, en fait, c'est tout un système économique qui repose sur le libre-échange, la compétitivité et la concurrence qu'il faut changer, tout simplement. Et donc, ça, c'est ce que préconise effectivement ce rapport qui a sorti une quarantaine de pages à l'attention des décideurs politiques. Et les scénarios donc, de ce rapport montrent qu'il est possible de changer les trajectoires et mettre en avant la nécessité de réformes fondamentales des systèmes financiers et économiques mondiaux. En effet, en plus de détruire le vivant, la raréfaction des ressources naturelles et leur inégale répartition alimentent l'instabilité sociale et les conflits, tout simplement. Les experts dénombrent plus de 2500 conflits en cours pour l'accès aux ressources fossiles, à l'eau, à la nourriture ou aux terres.
Bon, ben, c'est un constat alarmant. Rassure-nous, il n'est pas vraiment trop tard pour agir.
Ah, mais je vais te rassurer, Jackie. Non, alors il n'est jamais trop tard, hein, c'est toujours pareil. Hein. Le rapport nous dit qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais seulement si nous commençons à le faire dès maintenant, à tous les niveaux, du local au mondial. En effet, le rapport met en évidence l'insuffisance des trajectoires politiques actuelles. Des progrès sont réalisés, mais ce n'est pas suffisant pour faire face à l'ampleur du phénomène, regrette Sandia Diaz, qui est co-rapporteur du rapport, présidente de l'organisme en question. Donc, pour parvenir à renverser la situation, les auteurs du rapport en appellent à des changements en profondeur sur des sujets tels que la production des aliments. Nous ne devons pas travailler sur le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau, le bien-être de tous de manière séparée. Le tout est lié. Ce n'est pas dit de manière aussi claire dans les précédents rapports, en fait. Voilà, la biodiversité n'est pas uniquement liée à l'environnement. Le vrai défi d'aujourd'hui est d'intégrer ces préoccupations à l'ensemble des secteurs d'activité, notamment ceux économiques et de la finance.
Et oui, alors ça revient à dire qu'est-ce qu'on peut faire individuellement. Moi, j'avais une conversation il y a pas très longtemps, là, parce qu'on entend beaucoup parler du recyclage, qu'est-ce qu'on va refaire des plastiques, etc. Et où, en fait, il me semble qu'on n'est plus à ce niveau-là. L'intéressant serait de se dire, et si on arrêtait de produire ces plastiques ?
Pour commencer.
Parce que en fait, recycler c'est bien beau, mais donc on en remet. On sait que ça se détruit en microparticules qui sont avalées par les poissons, par etc. etc. Mais la vraie dimension, ce serait déjà de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas revenir aux bouteilles en verre ? Est-ce qu'on pourrait pas, effectivement, comme il se fait de plus en plus quand même maintenant, moi dans les boutiques, je trouve, vous voulez un sac, vous voulez pas de sac. Déjà, ça contribue à ce que les gens se sentent concernés. Est-ce que je vais prendre un sac ou pas un sac alors que j'ai que deux bricoles voilà, bon, c'est à chacun hein, d'entre nous.
C'est à chacun, effectivement. Et on a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens, effectivement, Jackie, notamment la remise en place progressive des consignes de verre, effectivement, ou les magasins vrac où on voit soi-même avec son contenant se servir de manière à ne pas jeter. Voilà, il me semble que si chacun fait déjà un petit peu attention à son niveau, Le plastique, c'est pas rien, surtout si vous le mettez à la poubelle, en fait. Voilà. Ben déjà, c'est pas inintéressant. Alors, on peut agir effectivement au niveau de notre consommation de plastique, mais on peut agir au niveau de notre consommation tout court quand on parle de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui te paraît intéressant, Jackie ?
Mais au niveau de notre consommation, effectivement, de se dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? Qu'est-ce que je vais vraiment acheter ? Est-ce que ça a besoin d'être neuf ? Est-ce que... etc., etc. Alors, c'est ma foi un peu politique, mais au sens noble du terme.
Hein, au sens premier, oui.
Qu'est-ce que j'applique, qu'est-ce que j'applique pour moi ? Alors, moi, je suis un petit peu entre deux eaux, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on subit.
Oui.
Alors, effectivement, on peut se dire, moi, j'essaye de plus prendre de sacs plastiques. Mais plein de produits sont avec du plastique autour qui ne serait pas obligatoirement utile, simplement pour qu'on ne le vole pas, pour que ceci, pour que cela. Et je pense qu'aussi, il y aurait des choses à trouver à ce niveau-là. Et pourquoi pas... est-ce qu'on ne pourrait pas influencer justement ces gens qui nous font ces produits en achetant mieux, en achetant effectivement des produits qui sont pas emballés ? Mais c'est compliqué. Regarde, rien que le bio, quand on va acheter du bio, ils vont l'envelopper encore plus pour que ce ne soit pas en contact avec les produits qui sont sur les autres fruits, par exemple.
Voilà.
Donc, c'est vraiment une grande réflexion à avoir, me semble-t-il.
Oui, exactement. Ce serait bien que les politiques fassent un petit peu plus pression sur les grands groupes agroalimentaires, on va dire, hein, parce que quand même, le plastique, il vient bien de là au départ. Voilà, pour qu'ils limitent un petit peu plus leurs emballages. Et puis, nous, de notre côté, moins on en achètera et moins ils essayeront d'en vendre aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est quand même toujours très lié.
Oui, alors il y a eu des choses de fait. Hein. Moi, je suis toujours un petit peu sidéré quand je repense à il y a une quarantaine d'années, quand j'allais en Bretagne, en vacances en Bretagne. Je me souviens que devant les supermarchés, il y avait déjà des conteneurs pour ramasser les bouteilles plastiques en grille. Mais il y a 40 ans, je me souviens d'une grande surface où à la sortie, il y avait des cutters pour que les gens puissent retirer les produits qui étaient sous emballage plastique et laissent les emballages plastiques sur place. Et ce truc-là, ça fait 40 ans. Et on n'a pas, fait depuis.
Et on n'a pas bien avancé, on est d'accord.
C'est très étonnant.
Oui.
Donc, c'est que le combat va être difficile, mais oui. C'est le combat de chacun, je crois.
Oui, c'est le combat de tous, effectivement. Ouais. Ouais. De manière à ne pas faire grandir plus notre fameuse mer de plastique. Voilà. Entre autres. Voilà, après, en termes de consommation, c'est vrai que de toute façon, on le sait. On va essayer, comme tu disais, Jackie, de se poser la question à chaque fois qu'on fait un achat. Un, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Deux, est-ce que je ne peux pas l'emprunter à quelqu'un ? Trois, est-ce que j'ai besoin de l'avoir neuf ou est-ce que je ne peux pas l'acheter d'occasion ? Il y a aussi la question de la réparation des objets. Hein, toujours bien se poser la question, est-ce que je le jette ou est-ce que je peux arriver à le faire réparer ? Ça, c'est super important. Et ce n'est pas un retour en arrière. C'est juste se dire qu'on est allé trop loin, tout simplement, en termes de besoin de simplicité et de facilité. On est allé trop loin par rapport à la planète. Donc, à un moment donné, il faut se remettre un petit peu face à soi, responsable face à ses achats, et se dire que bon, ben maintenant, il n'est pas trop tard, effectivement, comme nous le dit ce rapport. Mais mettons-nous au boulot, retroussons-nous les manches, essayons de faire en sorte d'être le moins nocif possible pour notre planète, chacun à notre niveau déjà.
Cultivons notre jardin.
Et maintenant, voici venu le temps des activités de jardinage et de leur calendrier. À nous, Jackie.
Eh bien oui, la saison, comme je disais déjà dans la dernière émission, hein, la saison avance de plus en plus. Il y a moins d'ateliers pratiques organisés par les associations de jardins.
Oui, tout le monde se promène.
Voilà, ou alors maintenant, ça va être dans le cadre d'animations culturelles relayées dans la presse ou par affiche. Il faut savoir quand même qu'il y a des choses qui se passent hein, pendant tout l'été,
mais
qui ne sont pas obligatoirement diffusées à nous directement comme le font les associations. Donc d'ici la fin du mois, quand même, il y a quelques rendez-vous et même on pourra même vous en donner un en juillet. Alors, moi, je dirais que le dimanche 23, je vais commencer à 17h.
Dimanche 23 juin, hein ?
23 juin, oui. À 17h, un atelier sur le compost et les extraits de plantes est proposé par Jardin Nature 48 à la salle des associations Amandes.
les extraits de plantes, c'est-à-dire vous allez apprendre aux gens à faire des extraits de plantes?
Absolument, on va apprendre et puis donner des recettes hein, sur ce qu'on peut appeler les purins d'ortie, etc. Moi, je n'aime pas dire purin parce qu'il y a un côté péjoratif. Et en fait, ce sont des extraits de plantes et ça ne sent pas obligatoirement très mauvais, comme le disent les détracteurs.
Voilà. Bon, ben allons apprendre à faire nos extraits de plantes et à bien faire notre compost avec les Jardins Nature 48. C'est bien ça, le dimanche 23 juin. Juste le lendemain, le lundi 24 juin, une fois que vous maîtriserez le compost et les extraits de plantes, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à Riotor de Randon le lundi 24 juin, donc à 18h30, pour un atelier confection de produits cosmétiques naturels, une huile pour le visage, un déodorant à la coco. Voilà, ça se passe dans le cadre du programme local de prévention des déchets Centre Lozère.
Donc simplement deux rendez-vous qu'on vous a donné pour le mois de juin, mais ça fait le point sur les activités. Sachez que cette émission « Cultivons notre jardin » est diffusée régulièrement le vendredi et le samedi à 11h et à 17h10.
Et oui, voilà, c'est terminé. Donc nous espérons que cette émission vous a plu comme d'habitude. Donc vous pouvez toujours réagir en nous laissant un petit message à redac@48fm.org, donc par mail, ou bien sur la page Facebook de la radio. Pour réécouter nos émissions, sachez qu'elles sont toutes disponibles dans la rubrique chronique du site internet de 48FM, 48FM.org. Et voilà, puisque nous avons longuement parlé de préservation de la biodiversité, la chanson du jour aujourd'hui, Jackie, ça va être trio avec l'hymne de nos campagnes. Ça colle ?
À bientôt.
À bientôt tout le monde.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur ma terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!